Le Monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 temps universel du vendredi 20 septembre 2019. Et Kabadou avec vous. Voici les titres. Au Burkina Faso, au moins 5 soldats ont été tués dans une embuscade dans le nord-ouest du pays. Au Mali, des violences interethniques ont causé la mort de 2 fillettes à Tombouctou. Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à la Banque centrale de l'Iran. Des jeunes du monde entier se mobilisent pour appeler à la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis ne manquez pas dans 10 minutes l'information sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Dans le nord-ouest du Burkina Faso, au moins 5 soldats ont été tués la nuit dernière dans une embuscade près de la frontière avec le Mali, Bagassi Koura.
Les 5 militaires ont été tués lorsque leur patrouille est tombée hier soir dans une embuscade dans les environs de Touéni, dans la province du Souro, à l'ouest du pays, à la frontière avec le Mali. Les renforts sont sur la zone et les opérations de ratissage en cours, a indiqué l'état-major. À la mi-août, 4 militaires avaient été tués sur l'axe Touéni-Loroni, toujours dans la province du Souro. 10 gendarmes ont été tués le 27 décembre 2018 dans une embuscade dans la même localité de Touéni, dans le nord-ouest du Burkina Faso. Notons que la nuit dernière, le pont de Boukouma, sur la route reliant Djibo à Dori, deux des grandes villes du nord du Burkina, a été détruit à l'explosif. Ce secteur est particulièrement touché par les attaques djihadistes qui ont entraîné la fuite de milliers d'habitants.
Au Mali, journée tendue hier à Tombouctou, la ville a été secouée par des violences interethniques. 2 enfants ont trouvé la mort et 4 autres blessés admis à l'hôpital. Ce vendredi, le calme semblait revenu dans la ville. De Tombouctou, la correspondance d'Abdoulaye Traoré.
Les braquages, les assassinats ciblés, les enlèvements de véhicules et des personnes ont fini par diviser les résidents de Tombouctou, une partie à Kizanlou. Ces derniers jours, des jeunes ont installé des barrages dans le quartier d'Abaradjou, provoquant la colère de la population arabe. Dans la nuit du mercredi à jeudi, des jeunes de la communauté arabe ont riposté, créant davantage de tensions entre les deux communautés. Hier matin, les violences ont repris. Les Arabes qui se sentaient menacés ont commencé à tirer dans tous les sens. 2 personnes sont blessées par balle. Et dans les altercations, une maison est incendiée. Il a fallu l'intervention des forces armées pour calmer la tension. La situation a provoqué dans l'après-midi le départ de plusieurs familles arabes vers le Sahara. C'est dans cette confusion que 2 enfants ont trouvé la mort par balle et leur mère admise à l'hôpital. Hier, en début de soirée, le gouverneur de Tombouctou a publié une décision interdisant la circulation aux véhicules et motos à partir de 18h jusqu'à 6h du matin. La même mesure indique que les rassemblements ou cortèges de tout genre sont interdits dans la ville jusqu'à nouvel ordre. Des rencontres de conciliation sont entreprises de part et d'autre. Abdoulaye Traoré, Tombouctou pour VOA Afrique.
Plus d'un demi-million de migrants clandestins ont été expulsés d'Angola dans le cadre d'une opération de lutte contre le trafic de diamants lancée il y a un an. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Au moins 35 000 carats de diamants ont été saisis lors de l'opération baptisée Transparence, lancée en septembre 2018 et qui vise à lutter contre l'exploitation minière et l'immigration clandestine dans le pays. Pour rappel, l'Angola, l'un des principaux producteurs au monde de diamants, a été frappé par la chute des cours de brut en 2014, qui fournit 70% des revenus de l'État. En Afrique du Sud, c'est quelques 1500 migrants et réfugiés qui ont dû quitter leur foyer pour fuir les violences xénophobes qui ont frappé les étrangers dans ce pays au début du mois. C'est ce qu'indique l'ONU, qui renforce sa présence sur place. Environ 800 d'entre eux, pour la plupart originaires du Mozambique, du Malawi et du Zimbabwe, ont cherché refuge dans le township de Kedlenhong, à 35 km à l'est de Johannesburg. Selon les autorités nigérianes, près de 200 Nigérians sont déjà rentrés la semaine dernière et 300 autres mercredi. En République démocratique du Congo, un chef rebelle poursuivi pour des viols massifs en 2018 dans l'est du pays a comparu ce vendredi avec parmi les parties civiles la fondation du prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. 5 hommes sont poursuivis pour crimes contre l'humanité. Le tribunal n'a pas indiqué le lieu et la date de la prochaine audience, ni celle appel du verdict. Toujours en République démocratique du Congo, 8 chansons de Koffi Olomidé ont été censurées, une décision dénoncée par l'artiste qui demande aux autorités de lutter contre les abus de pouvoir. L'interdiction porte sur 8 clips vidéo illustrant des chansons non autorisées du chanteur congolais d'après un document officiel. En Algérie, des milliers de personnes manifestent à Alger pour le 31e vendredi consécutif de mobilisation malgré un important déploiement des forces de l'ordre et quelques jours après l'annonce d'une présidentielle en décembre. Un scrutin rejeté par le mouvement de contestation. Nous y reviendrons plus en détail dans notre partie magazine. En Tunisie, le parti d'inspiration islamiste Ennahda, dont le candidat ne s'est pas qualifié au premier tour de la présidentielle en Tunisie, a annoncé officiellement son appui à l'universitaire Kais Saïd, arrivé en tête. 8 membres présumés du groupe État islamique en Libye ont été tués jeudi dans une frappe aérienne américaine dans le sud-est désertique du pays, a annoncé le commandement militaire américain pour l'Afrique. La marine libyenne a annoncé avoir secouru cette semaine près de 500 migrants qui se trouvaient sur des embarcations alors qu'ils tentaient de traverser la Méditerranée.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont annoncé de nouvelles mesures contre la banque centrale iranienne et les fonds souverains de Téhéran pour financement du terrorisme. Eric Manirakiza.
Selon le président Donald Trump, il s'agit des sanctions les plus sévères jamais imposées à un pays. Cela signifie qu'il n'y aura plus d'argent qui ira aux gardiens de la révolution, l'armée d'élite iranienne, pour financer le terrorisme, a-t-il ajouté. Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran a déjà été personnellement placé en mai 2018 sur la liste noire des États-Unis pour financement du terrorisme. Dans le détail, le Trésor américain vise désormais la Banque centrale iranienne et le Fonds souverain de l'Iran pour avoir fourni des milliards de dollars aux gardiens de la révolution, à sa force code, chargée des opérations extérieures, et à leur allié terroriste, le Hezbollah libanais. Ces 3 entités sont classées comme organisations terroristes par Washington. Ces nouvelles mesures punitives viennent dans le sillage des attaques de samedi dernier contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite qui, selon Washington, ont été menées par l'Iran, ce que Téhéran dément.
L'Arabie Saoudite a montré ce vendredi pour la première fois à la presse l'étendue des dégâts sur ses installations pétrolières attaquées le 14 septembre, insistant sur sa détermination à rétablir rapidement sa production en dépit de la montée des tensions dans la région. Ces attaques ont été attribuées à l'Iran par les États-Unis qui ont évoqué un acte de guerre, mais Téhéran a nié toute responsabilité et met en garde contre une guerre totale en cas de riposte américaine ou saoudienne. L'armée américaine a revendiqué une frappe de précision visant le groupe État islamique dans l'est de l'Afghanistan qui a tué par erreur jeudi 9 civils selon des sources officielles afghanes. Et puis le président américain Donald Trump a vigoureusement contesté avoir une conversation à risque avec le dirigeant d'un pays étranger. Des centaines de milliers de jeunes manifestent vendredi à travers le monde pour ce qu'ils annoncent comme la plus grande mobilisation jamais organisée pour appeler les adultes à agir contre la catastrophe climatique. Le point avec John Lindon.
Rejoignons le mouvement initié à l'été 2018 par la jeune Suédoise Greta Thunberg. Ces jeunes âgés de 10 à 20 ans se mobilisent pour le climat. Une manifestation monstre est prévue demain à New York, où se tiendra lundi un sommet mondial sur le climat. De Sydney à Séoul, de Tokyo à Bombay, c'est le Friday for Future pour faire monter la pression sur les décideurs politiques et les entreprises pour qu'ils prennent des mesures drastiques pour enrayer le réchauffement de la planète. En Australie, plus de 300 000 personnes, jeunes, parents et autres, se sont rassemblés dans plusieurs villes. En Afrique du Sud et en Ouganda, de nombreux écoliers sont arrivés par bus, en mototaxi ou à pied pour une marche. Au total, plus de 5000 événements sont prévus sur toute la planète. Cette journée doit être le coup d'envoi à New York de 2 semaines d'action avec notamment demain samedi, le premier sommet de la jeunesse sur le climat organisé par l'ONU. 500 jeunes sud-américains, européens, asiatiques et africains sont attendus avec le sommet des chefs d'État sur le climat prévu lundi, toujours à New York.
Londres a voulu voir un élan dans les discussions avec Bruxelles pour sortir de l'impasse du Brexit à 6 semaines du divorce, un optimisme qui contraste avec la prudence des Européens pour qui il y a encore beaucoup de travail à faire. Boris Johnson souhaite un accord au sommet européen des 17 et 18 octobre prochains, mais il se dit aussi déterminé à ce que son pays quitte l'Union européenne à la date prévue du 31 octobre. Il refuse de demander aux 27 un nouveau report. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et dans le monde, on en parle dans la Minute Éco avec Nani Talani ce soir.
Les maraîchers béninois sont économiquement asphyxiés et traînent déjà des millions de francs CFA de dettes depuis le 19 août, lorsque le Nigeria a décidé unilatéralement et au mépris de tous les traités commerciaux ou de liberté de circulation de la CEDEAO de fermer ses frontières avec le Bénin et le Niger, les accusant de mal gérer leurs douanes et de profiter de la porosité des frontières. Au Bénin, les fruits et légumes ne s'exportent plus et les conducteurs de voitures, camions ou taxis-motos peinent à faire le plein. Le prix du litre d'essence importé en contrebande a grimpé de 325 à 600 francs CFA en 2 semaines. Pour le Bénin et le Niger, qui à eux deux totalisent 32 millions d'habitants, le marché nigérian de 190 millions d'habitants est vital. La Chine construira au Mozambique en 12 mois un pont métallique long de 925 mètres et large de 7 mètres destiné aux véhicules lourds. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme national mozambicain de sécurité des ponts qui vise à assurer la longévité et la résistance des ponts du pays aux intempéries et la surcharge des véhicules. La surcharge a contribué à la destruction de 15 ponts au cours de ces 5 dernières années, entraînant une perte de 19 millions de dollars à la population et à l'État. Pour terminer, l'économie du Malawi devrait croître de 4,5% cette année grâce à l'amélioration de la production agricole et la reconstruction des infrastructures endommagées par le cyclone Idai. Cette prévision de croissance est légèrement inférieure à celle de 5% annoncée par le FMI en mars. La croissance du Malawi s'est ralentie ces dernières années en raison de la sécheresse, des pénuries d'électricité et des cyclones.
Merci beaucoup. Place à présent au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
Le Cameroun a un nouvel entraîneur.
Oui, il s'agit du technicien portugais Antonio Conceição da Silva qui a été nommé sélectionneur des Lions Indomptables en remplacement de Clarence Seedorf, limogé après la CAN Égypte 2019. Il sera secondé entre autres par François Oumam Binyik et Jacques Songo, tous deux anciens internationaux camerounais. Ils font partie de la belle épopée d'Italie 1990, quand le Cameroun avait été sorti au stade des quarts de finale. Les deux avaient déjà fait partie de l'encadrement des Lions Indomptables.
Éliminatoire CHAN 2020, le Maroc fera sans Ayoub El Kabi.
C'est sans l'attaquant du Wydad Casablanca que le Maroc se déplacera en Algérie demain pour le match aller du dernier tour des éliminatoires du CHAN Cameroun 2020. Zone Nord, Ayoub El Kabi est blessé, tout comme l'avant-centre du Raja, Mahmoud Ben Alib, qui a quitté ses coéquipiers à cause de douleurs à la cuisse. Toujours dans la zone Nord, la Tunisie reçoit la Libye, à suivre aussi Sénégal-Guinée, Mali, Mauritanie et Burundi-Ouganda dimanche, entre autres matchs. La RDC se déplace en Centrafrique, le Burkina Faso au Ghana ou encore la Côte d'Ivoire au Niger.
Kaba Diawara promu sélectionneur adjoint en Guinée.
L'ancien attaquant des Girondins de Bordeaux se rapproche un peu plus de la tête du Sili National A. Jusque la team manager de cette équipe, l'ancien international guinéen est nommé entraîneur assistant du Sili National. Il va épauler le français Didier Six dans la gestion de l'équipe. Diambobo Baldé, ancien défenseur du Sili National, a été nommé sélectionneur du Sili Junior. Il remplace Souleymane Abedi Camara, démis de ses fonctions après l'échec de la qualification à la prochaine CAN des moins de 20 ans.
Le Japon fête l'ouverture de son mondial de rugby avec une victoire.
La Coupe du monde de rugby, la première disputée en Asie, s'est ouverte sur un large succès du Japon face à la Russie, battue 30 à 10 à Tokyo. Cette victoire a été précédée par une brève cérémonie d'ouverture. Entre 400 000 et 500 000 visiteurs étrangers sont attendus au Japon. La finale se jouera le 2 novembre à Yokohama. Deux pays africains participent à ce mondial. L'Afrique du Sud qui entre en compétition demain face à la Nouvelle-Zélande et la Namibie qui espère décrocher sa première victoire en phase finale de Coupe du Monde. Elle qui jouera son premier match dimanche face à l'Italie.
La pépite de Barcelone, Ansu Fati, obtient la nationalité espagnole.
Ansu Fati, jeune Barcelonais de 16 ans, a obtenu la nationalité espagnole donc et pourra donc jouer pour l'équipe nationale d'Espagne. On va rappeler que Fati a quitté la Guinée-Bissau à l'âge de 7 ans pour rejoindre son père parti chercher du travail en Andalousie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kiabadou, toujours en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. À présent, les dossiers du jour. Et on commence avec l'Algérie, où des milliers de personnes ont de nouveau manifesté à Alger pour le 31e vendredi consécutif. Ces manifestations interviennent trois jours après l'annonce du 12 décembre pour la tenue de l'élection présidentielle, scrutin rejeté par le mouvement de contestation. Le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah avait ordonné à la gendarmerie nationale d'empêcher la venue à Alger de manifestants d'autres régions. Une décision qui a révolté beaucoup d'Algériens, comme l'explique le chef du bureau régional d'Eliatan, Chahreddine Beria.
Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que il y a 2-3 jours, le chef du corps d'armée de Salah a interdit l'accès à Alger. Et ça, c'est une violation de toutes les lois de la République. On ne peut pas interdire un Algérien d'aller dans sa capitale un vendredi, c'est pas normal. Et aujourd'hui, les manifestants ont voulu montrer à ce général que l'Algérien a tout le droit de circuler là où il veut dans son pays. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, il y a eu un nombre impressionnant à Tlemcen, que soit Tlemcen, ou bien de toutes les grandes villes d'Algérie, et notamment Alger, la capitale. Les citoyens des autres régions ont bravé le danger et l'interdit pour entrer à Alger par tous les moyens, dans les trains, hier. Aujourd'hui, c'était fermé, mais ils sont rentrés hier, par mer, par terre, à pied, même à pied de la Kabylie. Ils sont venus à pied jusqu'à la capitale et on se retrouve avec des milliers de citoyens qui disent « Abat la mafia, pouvoir assassin ».
Alors, est-ce que dans cette atmosphère tendue, c'est le moins qu'on puisse dire, est-ce que les élections vont être possibles ?
Écoutez, ce pouvoir est en train de violer toutes les règles. Il peut organiser ses élections. Mais le peuple aujourd'hui, ils disent au général, nous n'irons pas au vote tant que vous êtes au pouvoir. On ne pourra pas aller voter alors que c'est vous qui allez organiser les élections. Vous avez fraudé, vous avez triché pendant de longues années, vous êtes les mêmes, on ne va pas au vote, nous. On ne va pas voter. Mais bien sûr, il y aura le vote, il y a toujours des satellites du pouvoir, il y a toujours qui font allégeance au pouvoir. Mais ce sera un vote illégitime pour nous, pour la population. Parce que aujourd'hui, quand je vois des candidats, quelques candidats qui ont retiré le formulaire, eh bien, ce sont toujours les mêmes qui étaient au pouvoir il y a 20 ans, 15 ans. Non, ce n'est pas possible. Le petit peuple, l'Algérien lambda, n'ira pas voter tant que cette mafia existe.
Les revendications de la rue sont-elles acceptables pour le pouvoir, selon vous ?
Mais bien sûr, parce que ce peuple demande le départ de cette mafia au pouvoir. Et c'est la mafia qui va organiser l'élection. Cette mafia veut durer. Donc, bien sûr, ce pouvoir n'accepte pas les revendications. Il est en train de faire du maquillage à chaque fois. Donc, il essaie de changer de ministre, de parler d'installer une commission de surveillance de l'élection. Mais qui fait ça ? C'est le pouvoir. Donc, non. Il ne va pas accepter les revendications et nous n'accepterons pas leur vote.
Chahreddine Beria, chef du bureau d'Eliatan, joint à Tlemcen. Les dirigeants du monde se réunissent la semaine prochaine à New York pour l'Assemblée générale des Nations unies. La montée des tensions entre les États-Unis et l'Iran pourrait dominer les débats alors que le patron de l'ONU veut insister sur l'urgence d'agir face au changement climatique. Le reportage est de Margaret Béchir, correspondante de la VOA Afrique, de la VOA aux Nations unies. Le récit avec Lionel Gaïma.
Les attaques de drones sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite ont changé la donne. Les rebelles yéménites proches de Téhéran ont revendiqué les attentats du 14 septembre. De hauts responsables américains accusent l'Iran qui nie toute implication. Mike Pompeo, en tournée au Proche-Orient, a dit que l'attaque est un acte de guerre. Face aux sons de tambours et de guerre et les bruits de bottes, Téhéran brandit la menace de guerre totale qui risque d'embraser toute la région. En attendant, le président Trump renforce les sanctions contre Téhéran, pointant du doigt l'Iran comme premier suspect.
C'est ainsi. Nous allons regarder de plus près. Nous avons fait des analyses qui vont dans ce sens et nous vous ferons savoir dès que nous saurons avec certitude.
Pourtant, il était question il y a quelques jours d'une possible rencontre avec son homologue iranien Hassan Rouhani. Mais l'ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de la révolution iranienne, a été très clair. Pas de négociations avec les États-Unis tant que les sanctions ne sont pas levées. M. Trump, dans un tweet, a répliqué indiquant qu'il n'était plus intéressé par une telle rencontre. Outre cette crise, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, souhaite attirer l'attention sur une autre urgence.
Let's face it.
Regardons les choses en face. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous sommes en train de perdre la course contre le changement climatique.
Une centaine de dirigeants viendront lundi avec des plans concrets pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.
Nous présenterons des initiatives prometteuses pour nous débarrasser du charbon, fixer un prix pour le carbone, mettre un terme aux subventions pour le combustible fossile et réduire la pollution qui nuit à notre santé.
Samedi, avant le sommet des chefs d'État, des centaines de jeunes du monde entier vont tenir leur propre réunion au Palais de Verre pour rappeler aux adultes les dangers du changement climatique. La Suédoise Greta Thunberg est venue aux États-Unis à bord d'un voilier à zéro émission et prenant la parole à cette occasion. À partir de mardi, les dirigeants, à tour de rôle, vont passer à la tribune pour s'adresser à l'Assemblée générale. L'une des déclarations les plus attendues sera celle du président américain. Richard Gowen, directeur de l'International Crisis Group aux Nations Unies.
Je pense que le président Trump parlera, comme d'habitude, principalement de lui-même. Il va se concentrer sur l'affirmation selon laquelle il fait des progrès sur le nucléaire avec la Corée du Nord. Trump aime se présenter comme un homme de paix et manifestement n'y parvient pas lorsqu'il s'agit de l'Iran. C'est pourquoi il mettra l'accent sur la question coréenne.
Parmi les autres discours à suivre, celui du Premier ministre britannique Boris Johnson, qui va certainement revenir sur le divorce avec l'Union européenne. La sortie du président brésilien Jair Bolsonaro, qui a souvent été qualifié de Trump tropicalisé, ne va pas manquer d'intérêt non plus. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ne sera pas au rendez-vous. Son avenir politique est incertain après des législatives qui ne lui ont pas assuré une nette victoire.
Michael Pack, un cinéaste conservateur nommé à la tête de l'Agence américaine pour les médias globaux, a témoigné hier lors d'une audience de confirmation du Sénat. Il a répondu aux inquiétudes selon lesquelles le président Donald Trump pourrait imposer une ligne aux agences de presse comme la Voix de l'Amérique qui a pour charte d'être équilibrée dans ses informations. Un reportage de Brian Padden rendu par Nathalie Barge.
Michael Pack a déclaré à la Commission des relations extérieures du Sénat qu'il veillerait à l'indépendance journalistique de l'Agence américaine pour les médias globaux qui supervise la Voix de l'Amérique s'il devenait le PDG de l'organisation.
Toute l'agence repose sur la conviction que les journalistes sont indépendants, qu'aucune influence politique ne leur dicte comment rapporter les nouvelles. Et quoi dire? Sans cette confiance, je pense que l'agence serait foncièrement mise à mal.
Michael Pack est un producteur de documentaires qui a dirigé l'Institut conservateur Claremont en Californie et s'est élevé contre la tendance libérale dans l'industrie cinématographique. Avec un budget annuel de 628 millions de dollars, l'USAGM supervise toutes les agences de presse internationales financées par le gouvernement qui diffusent dans une centaine de pays et atteignent une audience estimée à 345 millions de personnes. La Voix de l'Amérique, qui diffuse en plus de 40 langues à travers le monde, la radio-télévision Marti à Cuba, les chaînes en arabe Al-Oura TV et Sawa, ainsi que Radio Free Europe, Radio Liberty et Radio Free Asia, font partie de la même entité. la charte VOA entrée en vigueur en 1976 et la loi sur la radiodiffusion l'oblige à adhérer à des normes journalistiques strictes pour constituer une source crédible d'information. Al Tompkins, directeur de l'information à l'Institut Poynter, une école de journalisme basée à Saint-Pétersbourg, en Floride.
Vous n'êtes pas un média dirigé par l'État qui raconte seulement une partie de l'histoire, comme le font souvent les médias gérés par l'État dans d'autres pays.
Les législateurs républicains et démocrates soutiennent la mission journalistique de ces agences, a déclaré l'ancien directeur de la Voix de l'Amérique, David Jackson.
Les membres du Congrès ont toujours soutenu la VOA car ils reconnaissent la valeur de disposer d'une source d'information unique sur laquelle les gens et les publics du monde entier peuvent compter.
Certains détracteurs du président Donald Trump ont exprimé des inquiétudes quant au fait qu'il pourrait chercher à transformer ses agences de presse en machines à propagande pour les politiques de son administration. Le sénateur démocrate Bob Menendez a remis en question les liens de Michael Pack avec Steve Bannon, ancien stratège à la Maison-Blanche et ancien directeur de Breitbart News, considéré pour cause nationaliste et conservatrice. Les deux hommes ont travaillé ensemble pour des documentaires sur la guerre en Irak et les questions nucléaires. Monsieur Menendez a demandé comment Monsieur Pack protégerait les journalistes d'agences des pressions politiques.
Êtes-vous capable de dire non?
Je pense que oui. J'ai déjà dit non auparavant.
La confirmation de Michael Pack peut prendre du temps à cause des enquêtes préliminaires et de la longue liste de candidats qui attendent d'être confirmés au Sénat.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Direction la capitale kényane, Nairobi, où un nouveau club de moto composé de femmes a vu le jour. L'objectif n'est pas seulement de développer leur capacité à vaincre la circulation souvent infernale, c'est aussi un moyen pour elles de défier les stéréotypes. Reportage signé Radia Adams, le récit est d'Arzuma Compaoré.
Il est pratiquement impossible de repérer une femme au guidon de Buda Buda ou autre moto qui sillonne les rues encombrées de Nairobi. Les dames en cuir de Piki Dada brisent l'image stéréotypée de la grande cité.
La moto, c'est quelque chose de spécial. Le fait qu'elles ne sont pas bloquées par les embouteillages, l'excitation qu'elles procurent, l'adrénaline, cela vous donne juste une impression de « waouh, c'est vraiment spécial ». Ce n'est pas quatre, mais deux roues.
Patience Meta, agricultrice et administratrice, a ouvert le club en juin 2019. Très vite, son club s'est agrandi. 40 femmes en font aujourd'hui partie.
Nous aimons nous motiver les unes les autres et rouler ensemble. C'est la seule façon de se soutenir mutuellement. Nous nous retrouvons, parlons ensemble, vivons ensemble et roulons ensemble.
Une chose est sûre, conduire à moto à Nairobi offre plusieurs avantages. Les taxes et frais de transport sont minimes et bien sûr, sur deux roues, on arrive plus vite à destination. Le nombre des adeptes de la moto a connu une poussée fulgurante. Les motards sont passés de près de 13 300 en 2007 à près de 191 000 une décennie plus tard. Selon Meta, les distributeurs accordent plus d'attention aux femmes et leur proposent des motos plus petites et plus légères, comme sa moto fabriquée en laine, Hero Charisma. Mais tout n'est pas rose dans l'univers des deux roues. Demari Mana est membre de Piki Dada.
Nous remarquons que dans certaines zones où les motos ne sont pas très nombreuses, les gens ne sont pas très prudents. Cela vous oblige à faire toutes sortes de manœuvres afin d'éviter les personnes qui se mettent sur notre voie.
L'autre défi, les mentalités.
Certains pensent que c'est juste un sport d'hommes. Ils ne s'imaginent pas que les femmes aussi peuvent le faire. Alors nous nous affichons pour qu'on nous voit, qu'on nous parle, ça nous encourage.
Piki Dada encourage les femmes à rejoindre le club. Le principal argument, la moto, c'est la liberté.
C'est C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lionel Gaïma a assuré la mise en onde. Nelson Lopez était à la console. Et Kabadou vous a présenté ce journal. Excellente soirée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Les infos.